EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'apôtre Alain Patrick Tsengue qui nous vient des églises Acer Paris. Bonjour, pasteur Alain.
Bonjour, pasteur Joël.
Gloire à Dieu, nous avons passé vraiment du bon temps hier. On a commencé une belle série sur les forces anti-croissance. Mm-hmm. On veut tous croire, on veut tous avancer dans les voies de Dieu, mais on peut discerner en fait les forces qui nous empêchent d'avancer. Et aujourd'hui, on va poursuivre en parlant de la croissance, mais on va parler des habitudes. On va identifier en fait, est-ce qu'on a changé ou est-ce qu'on a été transformé?
Exactement.
Et puis, il y a une différence, n'est-ce pas?
Il y a une grosse différence. Bonjour à tous. Il y a une très, très grosse différence parce que lorsque le pasteur se met à suivre les âmes, il faut qu'il se rassure que les âmes ont été transformées. Et certaines personnes peuvent changer leurs actions par comédie, mm-hmm, ou par mimétisme, ouais, ou parce qu'ils veulent atteindre tout simplement un but.
Donc, ils ont des mauvaises motivations.
Ils ont des mauvaises motivations. Mmh. Et on a souvent l'impression qu'il y a eu une transformation qui s'est faite, alors qu'il n'y a pas eu de transformation. Généralement, lorsque ces personnes font ça, il y a une expression française qui dit « tu chasses le naturel, il revient au galop ». Mmh. Et c'est ce qui se passe effectivement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se rendra compte que ces personnes n'ont pas délaissé leurs anciennes habitudes. Je vais vous prendre un exemple très simple. Voici un jeune garçon qui drague une fille à l'église et la fille lui dit « écoute, pour que tu puisses m'épouser, il faut que tu deviennes chrétien ». Ben, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra à l'église par mimétisme, il va voir comment les chrétiens vont se comporter, mm-hmm, et il va essayer de se comporter comme les chrétiens et même adopter leur langage. Mm-hmm. C'est un peu plus facile pour les Africains parce que tout le monde en Afrique dit que Dieu te bénisse. Donc, en Occident, ça peut être un peu plus difficile. Donc, il va même adopter le langage des chrétiens et plus tard, lorsque le temps va passer, lorsqu'il va atteindre son but, il va épouser la fille, on se rendra compte qu'il n'était véritablement pas chrétien. Mm-hmm. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et ça peut être un blocage à la croissance parce que ces personnes-là, elles vont rétrograder. Ou du moins, on va découvrir qu'elles n'étaient véritablement pas converties. Ou l'autre chose aussi, c'est des chrétiens qui sont convertis, mais qui ne vivent pas une véritable transformation dans leurs habitudes. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on va voir et on va montrer à chacun des téléspectateurs comment arriver à une transformation de ses habitudes et même de son caractère.
Amen. Et ce que tu dis, c'est absolument vrai. Mm. Je l'ai vécu. J'ai grandi toute ma vie dans l'église. J'ai vu des gens venir dans des réunions, lever les mains, chanter comme nous.
C'est vrai.
Mais dans leur vie, bien, c'était autre chose. Mm. Donc, on se dit, est-ce que ces gens-là jouent la comédie? Dans certains cas, oui. Mm. Certaines personnes aussi viennent parmi nous dans nos églises parce qu'ils ressentent l'amour de Dieu.
C'est ça.
Aussi, on ressent l'onction de Dieu.
C'est ça.
On peut être touché, on peut pleurer aussi. Mm. Mm. J'ai connu une situation où une dame venait parmi nous à l'église. Vraiment, elle était touchée, elle pleurait, elle louait le Seigneur. Mm. On croyait bien forcément cette femme-là, elle est sauvée, née de nouveau. Mm. Mais en fait, non, elle bénéficiait de l'onction, elle bénéficiait de la fraternité des frères, mais elle ne voulait pas se conformer à la parole de Dieu.
C'est vrai.
Donc c'est là où on voit, la personne n'est pas née de nouveau. Mais comme tu dis aussi, il y a des gens qui sont vraiment nés de nouveau, mais qui ne vivent pas un changement. Ouais. Et je pense qu'on doit aussi adresser, premièrement, la façon que nous sommes conçus, comment c'est Dieu ça. Nous a conçus. Mm. Nous sommes des créatures en trois dimensions.
C'est ça.
Donc, nous sommes un esprit,
voilà.
Nous habitons un corps et nous possédons une âme, ce qui est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Mm-hmm. Notre esprit est né de nouveau. Mm-hmm. Si j'ai fait de Jésus-Christ le Seigneur de ma vie, vraiment, je suis né de nouveau, je suis passé de la mort à la vie, je suis sauvé dans mon esprit.
C'est ça.
Et toutes choses sont devenues nouvelles dans mon esprit.
C'est ça.
Mais dans mes pensées, si je n'ai pas été renouvelé dans mes pensées, je peux continuer à penser comme autrefois.
Exactement.
Mais en fait, la Bible nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme.
C'est ça.
Donc, si je pense comme autrefois, je vais vivre comme autrefois.
C'est ça.
Donc, on doit vivre un changement. Mm. Je vais lire un texte, en fait, dans Romains 12, verset 2. Mm. Je vous invite à la maison, vous pouvez prendre ça en note. On l'a souvent cité ici à l'émission Vie de foi, mais on va lire dans deux versions. Mm. Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dans la version Chouraki, nous lisons « Ne ressemblez pas à cette ère, métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. » Donc, pasteur Alain, nos pensées ont une grande part à jouer, n'est-ce pas?
C'est ça. Nos pensées ont une très, très grande part à jouer. Et pour transformer notre façon de penser, c'est important qu'on aille vers la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous demande de méditer la parole, d'écouter la parole et de comprendre la parole. Mmh. Si on ne change pas notre façon de penser, il n'y aura pas de transformation dans nos habitudes. Mmh. C'est important que vous compreniez la force et la puissance des habitudes. 70% de ce que nous le faisons par habitude. Mm-hmm. On se lève le matin, on a le même procédé pour se laver. Certains se brossent les dents, après, etc., etc. Après cela, ils vont s'habiller, certains vont prendre leur café, après le café, ils prennent le même bus, et parfois, ils ont des changements qu'ils font. Par exemple, à Paris, certains vont prendre le métro, et ils vont faire des changements de façon systématique et par réflexe, sans même réfléchir. Est-ce que je suis arrivé ou pas? Dès que le train s'arrête, il se lève, il va à un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de faire ça. Mm-hmm. Et si on sous-estime la puissance des habitudes, on ne pourra pas expérimenter une véritable transformation.
Et en fait, on choisit nos habitudes.
On choisit nos habitudes, effectivement. Et certains disent que les habitudes sont une succession d'actions, parce que les habitudes prennent place. Mm-hmm. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut réussir à combattre une habitude. Mais là, nous parlons de la transformation, parce que si à l'intérieur on est transformé, l'extérieur suivra systématiquement. Mm-hmm. Et on a deux intérieurs. On a le fin fond, notre homme intérieur, l'esprit, mm-hmm. et nous avons nos pensées. Parce qu'on ne voit pas nos pensées, vous voyez un peu, mais par contre, nos actions et nos habitudes, on peut les voir parce qu'on les exécute par nos paroles, par nos actions. Mm-hmm. Donc, si on veut changer l'extérieur, c'est important qu'on puisse alors changer nos pensées. Notre esprit est recréé, notre esprit a la vie de Dieu, notre esprit va nous pousser à vivre comme la parole de Dieu le dit, mais notre âme doit être aussi métamorphosée.
C'est ça.
Amen.
Et si on s'arrête juste là-dessus, donc nous sommes sauvés, mm-hmm. nés de nouveau, si on a accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, mm-hmm. mais notre âme, en fait, notre pensée, notre ouais. volonté et nos émotions, en fait, cette dimension-là a besoin d'être sauvée.
Amen, amen.
Exactement. Donc ça, c'est une chose très importante. Exactement. Des fois, les gens s'imaginent, bien, toutes choses sont devenues nouvelles, et puis voilà, j'ai rien à vivre d'autre. Mm. Voilà, tout est accompli. Mm. Oui, Christ a tout accompli à la croix. Mm. Mais mon esprit est sauvé. Si je meurs, je vais aller au ciel. Oui. Mm, mm, mm. Mais si je vis, il y a des choses qui doivent être sauvées, des choses qui c'est doivent ça. Être changées dans
exactement.
Ma vie. Sinon, si je ne change pas ma façon de penser et même mes choix, si je ne change pas au niveau de mes choix, mm. bien ma vie va demeurer pareille.
Amen, amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez, lorsqu'on parle de changement et de transformation, les conséquences qu'il peut y avoir. Deux personnes peuvent au même moment changer leurs habitudes et on a l'impression que les deux ont effectivement changé. Mais c'est le temps qui va nous dire s'il y a eu un véritable changement. Le véritable changement dont nous parlons, c'est la transformation, la métamorphose. Et nous disons que ça commence dans les pensées. Pasteur, je me rappelle que j'avais un sérieux défi dans ma vie, c'était au niveau de la gestion financière. Je ne gérais pas correctement mon argent et ça avait causé des problèmes un tout petit peu avec mon épouse. Et on en était arrivé au point où mon épouse même avait arraché mes cartes bleues et mes chéquiers. Et il fallait vraiment, c'était important parce que j'étais un véritable assassin financier. C'était terrible. Wow. C'était terrible. Je croulais dans les achats impulsifs. Ah. Et quand je rentrais dans un magasin, il fallait que j'achète à tout prix. Et je comprenais pas ce qui se passait parce que parfois le vendeur venait me voir et dès qu'il me parlait, je me sentais gêné de ne pas acheter quelque chose. Et du coup, j'ai mis le couple dans une situation financière terrible. Et c'est comme ça que mon épouse a décidé de prendre les cartes bleues, tout ça, et j'ai fait preuve de beaucoup d'humilité, je lui ai donné parce qu'effectivement, je ne savais pas gérer. Et je me suis assis, je me suis dit, non, il y a un problème. À plusieurs reprises, je me réponds. À plusieurs reprises, je lui demande pardon. À plusieurs reprises, je dis, non, je ne vais plus faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ma vie? Et je me suis assis, j'ai compris qu'il fallait que je change à l'intérieur. Mmh. Et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu sur la gestion financière. C'est là où j'ai compris l'importance de l'épargne avec l'histoire de Joseph. C'est là où j'ai compris l'importance de correctement gérer notre argent, parce que notre argent, c'est l'argent de Dieu. Et j'ai compris toutes ces choses-là. Et quand j'ai changé à l'intérieur, systématiquement, j'ai pu être délivré des achats impulsifs, j'ai su comment gérer mon argent, et il y a eu une transformation, une métamorphose qui s'est faite systématiquement. Donc, c'est important de pouvoir étudier la parole pour changer et renouveler notre intelligence, pour pouvoir vivre dans un changement effectif.
Et juste dans le monde naturel, les gens comprennent ça. Les gens comprennent, en fait. On n'a même pas besoin d'être sauvé, né de nouveau, pour faire des changements dans notre vie. Et c'est spécial parce que c'est souvent, les non-chrétiens se voient, en fait, plus responsables que les chrétiens.
C'est vrai.
Les chrétiens, souvent, s'imaginent être victimes de leur vie et ils disent, bien, Dieu contrôle tout. Si je fais de l'embonpoint, bien, Dieu l'a décidé. Hein.
Oh là là.
Non, mais c'est vrai, Pasteur Alain. Plusieurs chrétiens s'imaginent que Dieu a créé des robots et tout ce qu'on vit, c'est forcément la volonté de Dieu. Dieu le permet ou Dieu me l'envoie. Mais si je fais de l'embonpoint, par exemple, on va parler juste d'une chose très facile. Le non-chrétien réalise peut-être qu'il doit changer des habitudes. Si j'ai le désir de manger des chips, vous dites des chips, là, toute la soirée, je veux manger du gâteau et bref, je veux manger plein de choses en soirée, bien peut-être je peux changer une habitude. Peut-être, au lieu de résister à ce désir de manger, je vais juste dire, bien, je vais me coucher plus tôt.
Exactement.
Parce que c'est le soir que je mange, admettons.
Exactement.
Donc, je vais me coucher plus tôt, je vais me réveiller plus tôt, je vais aller faire du sport à la salle du sport. Et puis là, ce changement d'habitude va changer ma vie.
Exactement.
Les gens non chrétiens ont compris ça, mais plusieurs chrétiens disent, je prie et Dieu ne fait rien pour moi. Donc, je suis une victime de ma vie. Je trouve que c'est malheureux, ça, quand on s'imagine, en fait, que Dieu contrôle tout. Mais on peut viser une croissance et on peut viser un changement dans notre vie. Et notre avantage, si les gens de ce monde peuvent réussir. Et nous, avec la puissance de Dieu, on dit, Seigneur, je veux me coucher plus tôt. C'est pas compliqué.
Amen.
Aide-moi, Seigneur Dieu. Et puis, on peut se repentir aussi d'avoir mangé d'une façon excessive, n'est-ce pas?
Donc, exactement.
Nous avons un avantage sur les non-chrétiens. Donc, c'est anormal si on voit que les non-chrétiens vivent plus de percées parfois que certains chrétiens.
C'est ça. Exactement. Pasteur, en étudiant ce thème, je me suis rendu compte que certains chrétiens n'expérimentent pas la transformation dans certains domaines parce que ils sont pas morts à eux-mêmes, en eux-mêmes, dans certaines notions, dans certains aspects de leur vie. Il y a une notion dont la Bible parle, c'est le renoncement à soi et la mort en soi-même. C'est-à-dire que le Seigneur dit, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand vous êtes chrétien, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous devez mourir. Il y a beaucoup de choses que vous devez laisser définitivement abandonner, c'est-à-dire que vous laissez Sodome et Gomorre, vous ne vous retournez plus, vous ne regardez plus. Et ça, parfois, une décision radicale est importante.
Amen.
Et parfois, les chrétiens n'ont pas beaucoup d'honneur, parce que quand tu prends une décision, avec un peu d'honneur, tu peux tenir à ta parole, en fait. Et ça, c'est important. C'est important que vous compreniez que... je prends un exemple. Par exemple, quand vous êtes marié, c'est important de comprendre que là, vous allez mourir au fait de pouvoir sortir avec d'autres filles. Lorsque vous êtes chrétien et que vous aviez l'habitude de voler ou de fumer, c'est important de mourir dans ces habitudes-là. Et ça, il faut prendre tout simplement une décision d'abandonner son ancienne vie et de pouvoir accepter de vivre la vie de Dieu telle qu'il nous la présente.
Amen.
Parfois, une décision ferme permet à la puissance de Dieu de se dégager pour nous mettre au-dessus de la tentation et au-dessus des défis.
Je dois prendre une décision,
Amen.
Mais je dois également, dans cette décision, prévoir ma victoire.
Amen.
Par exemple, dans ma vie, Pasteur Alain, moi, je peux te dire tout de suite, depuis des années, quand on a démarré dans le ministère, j'ai toujours pris la décision que si je rencontrais une femme dans mon bureau, ma femme était obligatoirement avec moi, à mes côtés. Il n'y a aucune situation où une femme pourrait m'accuser faussement parce que mon épouse est là.
Amen.
Mais quand on a des situations bizarres dans le corps de Christ, bien, on peut s'éviter des problèmes.
C'est exactement.
C'est vrai, on peut s'éviter et dire, non, je vais prévoir ma victoire.
Exactement.
J'ai eu des femmes qui sont venues vers moi me disant, Pasteur Joël, je veux vraiment te confier quelque chose, j'ai besoin d'un entretien, c'est vraiment compliqué ce que je vis. Et puis, je peux dire, à l'époque, quand je faisais la relation d'aide, je pouvais dire, je comprends ma sœur, eh bien, mon épouse va être là. Non, il faut vraiment que ce soit juste nous deux, je veux pas que ta femme entende cette histoire.
Tu as une délivrance spéciale, Pasteur.
Non, mais sérieux, Pasteur Alain, j'ai eu des opportunités où j'aurais pu être manipulé. J'ai dit, bien, non, moi, j'ai une alliance avec Dieu. Mm. Donc, on veut vivre dans la victoire, mais on doit prévoir notre victoire.
Amen.
Si on s'organise en conséquence, bien, gloire à Dieu, on peut y arriver.
Amen.
Et
Amen.
On parle aujourd'hui du changement.
Amen.
Ou la transformation.
C'est ça.
Mais je dois choisir de vivre une vie transformée.
Amen.
Soyez transformés.
Amen.
La Bible ne dit pas « Dieu va vous transformer
».
La Bible nous dit « Soyez ».
Donc,
exactement.
C'est
à moi de décider
Amen.
Si je vais être transformé.
Amen.
Je vis dans mon corps aujourd'hui selon mes choix, n'est-ce pas? Tout ce que je fais, je peux dire « ce corps va être soumis à l'esprit qui est dans mon esprit. »
C'est okay? ça.
Mon temple, le temple du Saint-Esprit, est soumis à mon esprit. Et le Saint-Esprit habite mon esprit,
c'est
donc
ça.
Je vais dominer sur la chair.
C'est ça.
Vous allez suivre ou ne marchez pas selon la chair et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
C'est ça.
Donc, si je prends la décision, mais tout commence avec une décision.
Amen. Tout commence avec une décision.
Je décide.
Amen.
Et c'est la puissance de Dieu qui me permet d'être fidèle dans cette décision.
C'est exactement ça.
Mais ma foi doit être ancrée dans le Seigneur Jésus-Christ qui est ma source de puissance.
Amen.
Mais je crois, souvent, frères et sœurs à la maison, pasteur Alain, je pense qu'on, nous, les enfants de Dieu, puisqu'on croit que Dieu est souverain, et je reviens à vie de foi, constamment j'en parle, mais on a tout mis sur Dieu, on blâme Dieu pour nos problèmes, mais des fois, on se récolte, ou on récolte des problèmes, et on pense que c'est Dieu qui a envoyé ça. Et là, on dit, c'est une épreuve, Dieu façonne mon caractère. Un instant, là, est-ce que j'ai pris une bonne décision? Est-ce que je me retrouve dans telle situation parce que je n'avais pas pris des bonnes décisions? Je pense qu'on a beaucoup de puissance dans notre vie pour prendre les bonnes décisions.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, on a donné une première clé, une deuxième clé. On a dit il faut qu'on renouvelle nos pensées. On a dit il faut qu'on prenne une décision ferme. Il faut que les gens comprennent que dans la parole de Dieu, il y a la puissance de transformation.
Amen.
C'est la raison pour laquelle il faut que la parole de Dieu pénètre dans notre esprit pour produire la puissance de transformation. Il y a quelque chose qui pilote notre corps. Il y a quelque chose qui pilote notre bouche. Il y a quelque chose qui pilote nos yeux. C'est notre esprit au-dedans de nous, en fait. Et notre esprit a une force pour le faire. Et la parole de Dieu va donner de la force, vous comprenez, à ce processus de transformation. J'ai appris, en fait, que on peut méditer la parole, parce que certains chrétiens méditent la parole de Dieu rien que lorsqu'ils ont des défis. Par exemple, il est malade, on lui a dit non, médite sur la guérison divine pour obtenir la guérison. Il a des problèmes financiers, médite sur les versets sur la prospérité et puis tu seras prospère. Mais on peut et on doit méditer aussi des versets bibliques qui concernent des domaines de tentation, des domaines où il faut un changement dans notre vie. Josué 1:8, quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est inscrit, c'est ainsi que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Un homme de Dieu disait que, en fait, la formulation hébreu de ce texte, c'est comme si, parce que tu as médité la parole, la parole fera systématiquement que tu fasses ce qu'elle dit. Systématiquement. Parce qu'elle est en toi et à un moment donné, toi et la parole, vous devenez un. Et à un moment donné, tu agis comme la parole, tu parles comme la parole, tu penses comme la parole. Il faut prendre le temps de laisser la parole pénétrer dans notre esprit. Si on a un défi avec la paresse, on prend des versets bibliques sur la paresse.
Amen.
Et on les médite.
Le texte que tu viens de citer, pasteur Alain, Josué 1, verset 8, je vais reprendre parce
Vas-y,
que je veux
prie.
Juste mettre l'accent sur un mot. Que ce livre de la loi ou ce livre d'instruction ne s'éloigne point de ta bouche. C'est une chose, là, de ta bouche. Pourquoi ça? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, Dieu n'est pas contre la réussite,
c'est
comme
ça.
Certains chrétiens s'imaginent. Mais le mot ici... médite-le. En fait, c'est le mot haga, qui veut dire gémir, prononcer, parler, murmurer des paroles entre ses dents.
C'est ça.
Donc, je vais prendre le temps. Ici, on parle d'une méditation. Je vais prendre le temps. Je vais prendre du temps vraiment à méditer sur le verset. Et comme je prends ce temps-là, je vais répéter, comme
c'est
on a vu hier, et cette parole va descendre dans mon cœur, ce qui va se produire, la bouche part de l'abondance du cœur.
C'est exactement
Mais
ça.
Mais si je dépose la parole de Dieu dans mon cœur, ce qui va sortir, c'est la parole de
c'est
Dieu qui
ça.
Peut changer le parcours de ma vie,
c'est exactement
selon
ça.
Hébreux 11, ce qui est absolument merveilleux. Mais tout ça, en fait, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, je peux dire, en fait, oui ou non. Je peux dire oui ou non.
Oui, c'est ça.
Je
oui
peux dire non. Non, je prendrai pas le temps.
C'est ça.
et puis je ne vivrai pas les bénéfices que Dieu me promet.
Exactement, et puis je continuerai à lutter avec certaines choses ou ne pas expérimenter une véritable transformation. C'est, pasteur, je voulais dire aux leaders qui nous regardent qu'un leader doit avoir du discernement. Il y a un homme de Dieu, je crois que c'est Rick Warren, qui a fait un sondage dans son assemblée. Il a fait un sondage pour voir les personnes qui étaient véritablement nées de nouveau ou pas. Mm-hmm. Et il s'est rendu compte que la majorité des personnes qui venaient dans son église n'étaient pas nées de nouveau.
Wow.
Et il s'est remis en question. Et je pense même qu'il a restructuré l'église, il a réorganisé l'église pour générer davantage des véritables nouvelles naissances. Mm-hmm. C'est important à un moment donné qu'on soit honnête et on regarde. S'il n'y a pas de véritable transformation dans la vie des gens, il faut... Et parfois, peut-être que nous prêchons pas avec beaucoup de puissance. C'est-à-dire que la parole de Dieu, on doit être oint, en fait. Est-ce que vous comprenez
Amen.
Ça? Voilà.
Amen.
Voilà, on doit être oint. C'est extrêmement important de pouvoir chercher la face de Dieu pour que lorsqu'on prêche, il y ait des transformations
Amen.
Qui se fassent, il y ait des choses qui se fassent. Maintenant, si on sait qu'on est oint, si on sait qu'on cherche la face de Dieu et qu'on remarque quand même qu'on a des problèmes, des personnes qui n'ont pas changé de vie, il faut qu'on multiplie les enseignements dans le domaine. Si votre assemblée est remplie, je prends un exemple, est remplie de voleurs, il faut enseigner sur les dangers du vol. Si c'est rempli de menteurs, il faut enseigner sur les dangers du mensonge, il faut enseigner et réenseigner pour que ça rentre dans le cœur des brebis et ça crée la transformation et le changement.
Amen. Donc, on a plusieurs chrétiens, entre guillemets, qui vont à l'église. C'est des gens qui ont adhéré peut-être à une église.
C'est ça, ça
où,
c'est vrai.
J'aime la fraternité, j'aime la musique, j'aime la louange. Mais si les gens ne vivent pas un changement, si on ne voit pas de changement, si on ne voit pas un avant et après,
c'est ça.
Si aussi, quand je parle avec cette personne qui est supposément née de nouveau, si elle ne parle jamais de Dieu.
Ah, ça, c'est vrai.
Si on n'a jamais de conversation spirituelle avec cette personne qui fréquente notre église, il y a un problème.
Amen.
Il y a un problème. Et pasteur Alain, aujourd'hui, on a parlé que certaines personnes changent. Et on parle ici, c'est temporaire. Mais transformation, c'est quelque chose de révolutionnaire.
C'est révolutionnaire.
Nous sommes métamorphosés. Les gens voient, ben, la personne a changé. Il y a quelque chose de différent.
C'est ça.
Mais pour vivre ce changement-là, on a besoin d'un miracle.
Amen.
Et la Bible nous parle, justement, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Donc, on doit vivre le miracle de la nouvelle naissance. Et je crois aujourd'hui qu'il y a des gens à la maison, partout à travers la francophonie. Aujourd'hui, pasteur Alain, nous avons un potentiel de 300 millions de personnes qui suivent cette émission.
Amen.
300 millions de personnes, potentiellement. Je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui vont à l'église, qui vont à l'église peut-être, qui écoutent des émissions chrétiennes. Est-ce que tu pourrais leur dire comment ils peuvent vivre ce miracle de la nouvelle naissance?
C'est important que vous compreniez qu'un manguier ne donnera jamais des avocats. Pourquoi? Parce que on reconnaît un arbre par son fruit. C'est important que vous puissiez naître de nouveau à l'intérieur de vous pour pouvoir produire les fruits de la sanctification, pouvoir produire les fruits de la vie de Dieu. Sans cette transformation, sans ce miracle de la nouvelle naissance, vous pourrez réunir tous les efforts que vous voulez, vous n'allez pas y arriver. La transformation ne sera pas du tout radicale. C'est la raison pour laquelle vous devez... accepter la parole de Dieu, la parole qui sauve, pour que vous puissiez naître de nouveau. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Amen.
En acceptant la parole selon laquelle Jésus-Christ est mort pour vous et il est revenu à la vie, et c'est pour vous qu'il est mort à la croix, en acceptant la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus sur la croix, vous pouvez parvenir au salut. On va vous aider dans cette émission à pouvoir naître de nouveau véritablement selon les Écritures. Pasteur, si tu me permets, on va leur faire la prière de repentance. Vous allez tout simplement, vous avez été touché par ce message, vous allez tout simplement répéter après moi. Et après avoir répété, vous allez naître de nouveau. C'est un miracle qui va se produire.
Amen.
Vous allez dire, j'ai écouté ta parole, Seigneur, et j'accepte. Je déclare que tu es ressuscité d'entre les morts. J'accepte ton sacrifice et j'accepte le pardon de mes péchés. J'accepte aujourd'hui de changer de vie. Merci Seigneur pour ta parole qui rentre dans mon cœur et dans ma vie et qui me change radicalement. Je suis désormais ton enfant. Je suis né de nouveau.
Alléluia.
Amen.
Amen.
Gloire à Dieu.
Amen. C'est merveilleux. Oui, on peut vivre au-delà d'un changement, on peut vivre une transformation.
Amen.
Et c'est votre vie qui va être totalement transformée à partir de ce moment. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, comme vous avez prié avec le pasteur Alain Patrick, Amen. Et gloire à Dieu, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Dieu le Père vous a adopté dans sa famille royale.
Amen.
Aujourd'hui, vous avez un héritage glorieux, merveilleux, mais vous devez découvrir ce qui vous appartient. Donc, écrivez-moi dès aujourd'hui, écrivez à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi, tout un mot, videfoi@emctv.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai accepté Jésus dans ma vie et on va vous écrire, on va vous dire exactement ce que vous pouvez faire maintenant pour grandir dans les voies de Dieu. Vous êtes un bébé spirituel, un nouveau-né. Donc, on ne veut pas vous laisser toute seule. Vous avez besoin d'être encadré, être nourri spirituellement pour savoir bon, voilà les premières étapes de la vie chrétienne. Et quand vous marchez selon ce qu'on va vous expliquer, qui est très, très simple, mais vous allez pouvoir avancer dans les voies de Dieu et vraiment vivre une vie transformée. Gloire à Dieu. Et aussi, une autre chose très importante, c'est comme on devient un enfant de Dieu. Si nous sommes dans une belle famille spirituelle, une bonne église, gloire à Dieu, nous pouvons avoir des bonnes influences pour justement être entretenus dans notre vie chrétienne.
Amen.
Et c'est une autre chose, je crois, qui empêche des fois la transformation, c'est quand nous avons des mauvaises influences.
C'est exactement ça.
Des mauvaises influences. Donc, déjà, on doit discerner entre les bonnes et les mauvaises influences. Et la façon qu'on va découvrir, bien, c'est en lisant la Bible.
Amen.
Mais quand nous sommes un nouveau-né chrétien, Pasteur Alain, comme ceux qui viennent d'accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme recommandation pour vraiment bien discerner les influences qui sont potentiellement des mauvaises et les bonnes? Comment discerner les bonnes influences dans leur vie?
Bon, déjà, il y a ce que votre pasteur enseigne et il y a aussi le témoignage intérieur. Au-dedans de vous, le Saint-Esprit va vous dire cette personne, c'est une mauvaise personne. Vous allez le ressentir. Vous allez sentir que la personne, en fait, elle ne vous rapproche pas de Dieu. Et même parfois des chrétiens dans la maison de Dieu, après avoir passé du temps avec ces personnes, on se sent loin de Dieu, on se sent un peu salé. Le Saint-Esprit au-dedans nous dit, ça c'est une mauvaise personne. Vous savez, la Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. L'Esprit de Dieu vous montrera. Mais je pense que la clé, c'est aussi de fréquenter votre église locale et de suivre les enseignements de votre pasteur. Dieu a établi des bergers, Dieu a établi des responsables spirituels qui vont vous aider à grandir. Il y a des pièges que vous ne saurez pas encore reconnaître. Ces personnes-là vont reconnaître ces pièges-là pour vous. Si vous leur faites confiance, parce que ce sont des bergers, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des oints de Dieu, si vous leur faites confiance, ils vous montreront le chemin à suivre. Et je prie vraiment que vous trouviez une Amen. Bonne église où la parole de Dieu est enseignée dans son intégrité.
Amen, gloire à Dieu. Et chaque fois qu'il y a des gens qui sont sauvés à l'émission Vie de foi, bien, on aide aussi à diriger les gens vers une bonne église locale.
Amen.
Donc, vous pouvez nous écrire. Et puis, si on connaît une église dans votre ville, dans votre pays, on va vous donner des informations également. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment voir des âmes sauvées partout à travers le monde.
Amen.
Et puis, gloire à Dieu, nous sommes là pour vous aider comme on peut. Donc, merci beaucoup, Pasteur Alain.
Merci.
C'est vraiment important d'être transformé
Amen.
Par le renouvellement de notre intelligence selon la parole de Dieu. Et puis demain, on va poursuivre en parlant de la séduction spirituelle. On l'a abordé juste vers la fin, en parlant des mauvaises influences, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on va voir ensemble demain concernant la séduction spirituelle. Donc, c'est un rendez-vous divin à ne pas manquer. Partagez dans les réseaux sociaux également pour aider le plus grand nombre à s'approcher de Dieu et éviter les pièges du diable. Donc, gloire à Dieu pour ça. Merci, Pasteur Alain.
Merci,
et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.